mais plutôt des maudits non non. J'ouvre grand ma gueule à chanson. Je cotise au club des insoumis. J'en suis. Pas parti de la crèche au ravi. Pas non plus des moutons mutants. Bêlant la langue de l'occupant. Dernier carré des insoumis, j'en suis. C'est dit qui ne dit mot consent. Alors allons-y, chaud devant. Que vibre au centre de la cible la flèche bleue de l'impossible. Pas parti des fleurs au fusil, ni du parcours des combattants. Mon tempo, c'est le cœur battant. Je t'invite au bal des insoumis. J'en suis. Pas parti de l'argenterie. Je t'achète et tu me vends juste une rose entre les dents. Le bras d'honneur des insoumis, j'en suis. C'est dit qui ne dit mot consent. Alors allons-y, chaud devant. Que vibre au centre de la cible la flèche bleue de l'impossible. Pas parti du tutti quanti, des basses cours et des salons. Beau temps, mon adhésion à l'amicale des insoumis, j'en suis.
Thank you. Maximum.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Yeah.
Radio Liberté, à la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs en Normandie. radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et toute autre forme de création curieuse. Et il va être vraiment question de ça aujourd'hui, puisque nous allons parler du festival Frasque avec Anne Dreyfus, David Noir et Virgile Novarina. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons commencé l'émission avec un morceau de Asuplayas. Il s'agit d'un alias de Nicolas Kapetanovic. Qui officie dans Show Your Frasque. Anne, tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, ça fait déjà plusieurs fois qu'il est sur une écriture musique électronique, mais il a vraiment bricolé, plus que bricolé, mis en place vraiment un instrument qui lui est propre. Ouais. Et il travaille sur les nappes sonores. Je ne l'écrirais sûrement pas aussi bien que lui s'il était là. En tout cas, on l'a rencontré via deux autres artistes qui font partie très régulièrement de Show Your Frasque. C'est Christine Coste, et Catherine Ursin. Ils avaient présenté en janvier toute une série de performances sur une semaine qui s'appelait Illico. Et de là, eh bien, naturellement, des amitiés et des complicité artistique se tisse et s'affirme.
Bon, bah très bien. Anne, on a identifié ta voix et c'est pas très compliqué. Et puis de toute façon, tu viens depuis, je crois, 2000, je ne sais plus, mais je crois que tu es venue pour présenter la 8e ou 9e édition de Frasque.
Ça fait quelques années. Donc ça doit faire 7 ans.
Ouais, voilà.
On est venu souvent aussi ensemble avec David.
Une fois avec David.
On est venu une fois.
Ah, je croyais deux.
Eh ouais, en 2017, j'ai regardé. Une fois avec David. Alors David, peut-être en deux mots, hein, te présenter, dire ce que tu fais, dans quel domaine de création tu évolues, et, afin que les auditeurs identifient ta voix. Je demanderai à Virgile.
Je vais m'identifier. Bonjour auditeur. Alors j'évolue dans plutôt la forme vivante, enfin le spectacle vivant comme on dit, ou la scène, avec un spectre un peu large qui va du jeu de comédien à la performance, notamment au générateur, et puis au cabaret aussi. Oui. Donc voilà, je couvre un petit peu ce spectre-là.
On va y revenir. Quant à toi, Virgile, dis-nous ce que tu fais, en gros.
Oui, disons qu'il y a deux parties dans mon travail qui parfois se rejoignent. D'une part, je travaille sur le sommeil en tant qu'artiste, et ça prend la forme d'écrits, de dessins, de performances, de films, de collaborations, etc. Ça, c'est un projet que je fais depuis plus de 25 ans. Et d'autre part, je réalise des films, soit des films sur des artistes, soit des films sur le sommeil aussi. C'est là que parfois ça se croise.
D'accord, bon, on y reviendra également. Anne, comme tous les ans, je vais te demander de nous dire quel est l'objet du Festival Frasque. Pour les auditeurs qui n'ont jamais écouté notre émission, peut-être, il y en a qui écoutent en voiture, tu sais, au travail même, peut-être. Autour de quoi est construite la programmation de Frasque?
Alors, Frasque, bien sûr, on peut dire, c'est un festival, mais c'est surtout une rencontre de la performance et d'une trentaine d'artistes qui donc vont comme ça pendant 15 jours. Il y a en moyenne 7 dates, présenter un travail en cours, une performance qui peut être aussi bien issue plus de la musique que de la danse, que du théâtre. Toute forme d'écriture qui, comme ça, déplace la recherche en art vivant et amène des objets plus ou moins intensément curieux, insolites. En tout cas, il y a dans cette édition des formats très 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 variés, liés aussi à l'évolution de la performance qu'on va développer d'ailleurs comme une réflexion à la fin de cette édition, qui va donc du 7 au 22 octobre, mais aussi avec des formats liés à ce qu'a créé récemment et mis en ligne le générateur, qui est cette base de données d'archives de performance qui s'appelle Performance Source, qui est une source aussi de réflexion et d'inspiration pour des nouvelles œuvres.
Très bien, mais oui, oui. Alors, j'ai lu dans le les textes que sur Internet un terme que j'aime bien qui est friction improbable. Là, vous dites ça dans le texte de présentation. Mais alors, d'ordinaire, on utilise ce terme pour une situation de conflictualité. Et est-ce le cas dans la performance? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Quand il y en a, moi, je trouve ça plutôt salutaire. Enfin, on en a. Surtout quand ça se passe dans un axe de présentation à un public direct, on est plutôt dans une société qui évite ça à tout prix, oui. Et qui, surtout sécurité, confort, surtout pas de heurts, bienveillance, pas de... d'à-coups violents. Alors, bien sûr, comme je me souviens, David avait dit, on peut tout faire dans la performance, mais on ne peut pas tuer. Néanmoins, secouer des idées, secouer des écritures aussi, défricher, en fait, et puis, pourquoi pas, importuner.
Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu parles de ça, pas d'à-coups, pas de violence, moi je me souviens quand même m'être bien fait taper la gueule là, en début d'année dans les manifestations.
Ouais. C'est clair.
On est
dans un endroit protégé qui est le générateur dans une forme spectaculaire. Donc, je serais ravie d'entendre mes amis.
Non, évidemment, mais ce dont parle Anne, je pense que c'est le discours, c'est-à-dire qu'il y a un discours social qui a pas grand-chose à voir quelquefois avec ce qui se passe en réalité, mais le discours, il est prégnant quand même, et il influence les esprits, les comportements, le prêt-à-penser des choses, donc on a quand même nécessité de... Ben l'art, ça sert un petit peu à ça aussi, d'essayer de se départir de ça, et de... Voilà, de pouvoir avoir une pensée qui se sépare de ça. C'est d'autant plus important que maintenant c'est devenu très très complexe, parce qu'il y a tellement de médias, tellement de discours justement, tellement de mots, tellement de paraboles autour des choses, que c'est devenu complexe, y compris, je trouve, dans la communication avec les artistes eux-mêmes parfois. Le genre, tout ce qu'on veut, enfin bref, tout ce qui est dans l'actualité, où il y a des choses qui me sont parfois, moi, des confusions assez dommageables, quoi. Définitivement, pour moi, la représentation de quelque chose, ça n'est que la représentation de quelque chose. Mmh. Il faut pas le confondre avec un acte. Je veux dire, sans ça, on n'en finit plus, quoi. Sade, c'est de la littérature. Après, il a eu la vie qu'il a eue, même s'il en a passé la plupart en prison. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Et c'est pas, je trouve qu'il y a trop de choses qui veulent confondre ça. Donc après, chacun le prend, peut en parler à sa façon, mais moi j'aime bien le replacer comme une chose de base. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est sans conséquence un acte artistique, mais il ne faut pas le confondre au premier degré avec le geste qu'il décrit. Enfin, on est dans la bêtise pure, quoi, petit à petit.
Voilà. Ah, bien d'accord avec ça. Ouais. Virgile, ton avis sur...
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs sens au mot performance, hein, puisqu'au départ ça s'appelait plutôt des happenings d'ailleurs, quand il y avait vraiment une implication du public qui était importante. Ensuite ça s'est appelé, c'est vrai, les performances, puis parfois les gestes ou les actions selon les époques. Il y a quand même des nuances entre les uns et les autres, puisque dans les performances, je crois que par rapport au happening, il n'y a pas forcément une participation du public. Certains artistes performeurs accordent beaucoup d'importance à l'improvisation, au hasard aussi, d'autres non. Donc en fait, ça regroupe des choses très vastes, et il y a parfois une confusion entre le terme performance en anglais, qu'on peut utiliser très bien pour un pianiste, hein, qui va interpréter une partition, on dit voilà, c'est une performance, on l'utilise vraiment pour la danse, pour le théâtre, etc., on parle de performance, alors qu'en français, il me semble que en général, la performance, c'est plutôt des choses qui sont moins imprévues, et puis dans un cadre qui est pas non plus très fixe. On peut être bousculé dans une performance plus que voilà, si on est face à une scène où on est confortablement dans son fauteuil.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors moi, j'ai l'idée peut-être erronée, mais que l'art de la performance est lié à un questionnement politique. Je sais pas pourquoi, d'où ça me vient, mais même dans sa dimension festive, on parlera de show your frasque après. Je vais pas le prononcer à l'anglaise quand même, quelle horreur. Même dans la dimension festive qui m'évoque le carnaval, moi, qui est quelque chose de politique quand même. Est-ce que pour vous c'est ça aussi? Est-ce qu'il y a un lien fort entre la politique, je dirais, au sens large, hein, c'est pas les élections, mais et cet art particulier qu'est la performance?
Je dirais que oui. Après, de façon indirecte et directe, on n'est effectivement plus dans cette période de la performance qui était, qui quand même équivalait à beaucoup, de la part des artistes, un besoin d'émancipation avec des problèmes sociétaux qui étaient, pour les artistes femmes, ben, de s'affirmer là où il y avait de la place. C'était là, donc elles ont pris non seulement des espaces qui n'étaient pas occupés, mais aussi elles ont créé une forme de langage corporel, physique, avec des épreuves parfois très très dures, pour s'affirmer dans le monde de l'art, qui est quand même extrêmement majoritairement masculin à l'époque, enfin dans les années 60-70. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, on en a beaucoup discuté avec David et puis aussi Elisabeth Saint-James, parce qu'on sent, et je suis même venue vers vous, enfin, pour vous faire part d'une espèce de constat vibratoire et puis même médiatique dans la communication de tous les théâtres actuels depuis un ou deux ans. Il y a le mot performance partout.
Ah oui.
Enfin, en tout cas, la moitié des spectacles se dénomment performance. Donc, il y a de quoi se poser une question, et le sujet est vaste, et on n'est pas les premiers du tout à interroger le mot performance. Tu l'as décrit en partie. Il y a des tas de définitions, mais moi, je dirais que ça force, ça. En fait, c'est un espace encore de liberté. Dans le flou qui va avec le mot, c'est pas un mot français. Enfin, performance, c'est une performance sportive, une performance oui. commerciale, une performance vraiment concrète, en argent, en capacité physique. Là, non, en fait, oui. performance vient du mot anglais, c'est spectacle, hein, c'est les arts vivants. Donc, mais en tout cas, il y a cet espace de liberté qui existe là, avec le meilleur et le pire. Mais les artistes s'en emparent, et c'est quand même encore un champ de recherche possible là. Cette édition, justement, on est arrivé avec pas mal d'heures d'échanges, de réflexions à cette fin de frasque qui s'appelle le cimetière de la performance, justement.
Ah oui.
Non pas pour l'enterrer, parce que de toute façon elle va continuer à vivre, et puis elle est là sous des formes même qu'on connaît pas, avec des artistes jeunes, enfin on sait pas, en fait, ça nous dépasse. On dit bien toujours que c'est ça glisse entre les mains, la performance. On pourra jamais définir à l'avance ce qui va se passer, et la décrire après, c'est hyper complexe, et puis ça change tout le temps. Donc on va plutôt, en l'enterrant ou en créant un cimetière, un lieu fictionnel, en célébrer sa vitalité.
Ah bah super. Bah oui, je me dis aussi oui.
Mais peut-être que toi, David, tu auras d'autres, forcément, d'autres
sur quoi,
propos
sur la...
à faire.
Sur la,
performance,
voilà. Je voulais dire juste par rapport à la question sur le politique que tu as soulevé. Forcément, on est tenté de dire forcément oui, parce qu'effectivement, tout l'est. Après, pour ma politique, faut pas que ça soit simpliste, en fait. Ça veut pas dire, c'est pas réduire à une chose. En fait, moi, je suis un peu fixe là-dessus. C'est-à-dire que un artiste, c'est un artiste ou une artiste, et ça passe par sa création. La lecture, elle passe par la création. Donc, sa vision du politique, elle peut être très complexe, très paradoxale. Là aussi, sans ça, il y a pas de recul. Quand même. Après, si ça devient bébête, simplement, je démontre ça, c'est une équation simpliste. Non, c'est justement tout l'intérêt. Donc, ça peut être aussi de jouer avec des contraires, avec des choses qui peuvent paraître tout à fait choquantes, obscènes, tout ce qu'on veut. Et c'est pas forcément des pièges dans lesquels on invite les gens à tomber. C'est simplement que ça paraîtrait tellement évident que c'est le processus de l'art, mais ça aussi, sa tendance, on a l'impression quelque part à être un peu oublié. Non, c'est normal de dire le contraire de ce qu'on pense. C'est normal. On fabrique là-dedans. C'est un micmac de l'esprit qui doit être retranscrit. Et par rapport à la performance au cimetière, content de diriger ou tombe content de lui creuser à cette pauvre performance. Bon, moi personnellement, j'ai jamais aimé du tout ce mot-là. Oui. Il m'a toujours déplu parce que tout simplement, comme vous le disiez très bien, il veut pas dire ça ici. Alors c'est pas du tout que je sois franco-français chanvin, mais il faut scoltiner la difficulté. Sans ça, c'est comme les groupes qui chantent forcément en anglais. Ils sont pas posés la question d'écrire trois lignes en français, quoi. Bah non, il faut un peu savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Donc ça me plaît pas parce que effectivement, ça correspond pas à ça. On fait pas un bilan économique. On fait pas d'exploit. Donc pourquoi se coltiner? C'est une mauvaise charge de se coltiner un mot qui a pas un sens porteur pour soi. Ça, moi, je trouve ça pas bon. Donc, si un cimetière, c'est peut-être l'occasion de s'en moquer un peu, de la faire pourrir un peu, et d'en faire un fantôme. Peut-être c'est plus intéressant sous la forme de son souvenir, de son fantôme. Enfin, quelque chose de peut-être romantique. Là, on n'est pas loin du Père Lachaise. Il y a quelque chose de beau dans ces tombes-là, dans le justement dans le romantisme. Il y avait quelque chose qui était beau dans la présentation de tous ces écrivains-là. C'est une vision fantastique, abracadabrantesque de la chose. C'est pas la mort avec le pathos, premier degré, ah là là, c'est douloureux, on souffre. On s'en fiche à ce moment-là. On est parti avec la nonne sanglante, le moine, Lewis, tout ce qu'on veut. Et ça amène ailleurs. Donc il y a toujours peut-être un bénéfice quand quelque chose semble trop... Parce que pour moi, la performance, c'est bête comme un Tupperware. C'est une espèce de boîte plastique comme ça. Et puis voilà, youpi, tralala, on a trouvé, on fait pas de l'art ceci, on fait pas de l'art cela, on fait pas du théâtre, on fait pas machin. On fait un truc, on sait pas. Mais je trouve ça con comme la lune. Moi, si, on sait, sauf que c'est un peu plus compliqué. C'est rattaché aux personnalités individuelles. Ça se permet un peu tout. Bon, il s'agit de s'y intéresser. C'est comme des minerais différents. Ouais. C'est pas une discipline. C'est pas une discipline en soi dans laquelle on pourrait tous se dire, on a tous la même technique, comme des musiciens, des trucs. Non, c'est un pan de l'art où on se permet beaucoup de choses et surtout aussi d'y réfléchir et puis de pas y réfléchir parfois. Donc c'est assez vaste, c'est comme une sorte de lande comme ça. Donc ça peut pas être réduit à une sorte d'objet qui serait un objet concept qui ferait plaisir à l'art plastique quelque part ou à la muséographie. Non, pour moi c'est pas intéressant comme ça. Donc faut peut-être lui donner des claques et on verra bien.
Régler son compte.
C'est vrai que dans ce pan de l'histoire de l'art, il y a des liens intéressants entre la performance et le politique. Et en fait, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a énormément de performances, depuis les débuts de la performance, d'ailleurs on pourra discuter qu'est-ce que c'était que le début de la performance, qui avait une forte dimension politique, et aujourd'hui, on voit des revendications politiques, activistes, qui empruntent les formes de performance à des choses artistiques qui ont été faites avant. Je pense par exemple à un homme politique du Nil qui va bientôt être submergé par la montée des eaux, qui a fait son discours en costume avec un pupitre, mais dans l'eau à moitié. Il était dans la mer jusqu'au bassin et il a fait un discours très sérieux. Donc ça emprunte un peu une forme artistique des performances, ou les activistes climatiques qui s'en prennent dans un musée en lançant de la soupe, alors non pas sur le tableau directement, mais sur la vitre qui protège un tableau, mais pour faire sensation. Donc là aussi, ça emprunte un petit peu des choses qui ont été déclenchées par des artistes depuis plusieurs décennies. Donc les liens entre les deux sont forts. Et pour ma part, donc je viens de réaliser un film sur Pierre Pinoncelli, et lui, il est évident que la plupart de ses performances ont une très grande dimension politique. Oui. L'idée pour lui, c'était vraiment de choquer les gens pour les faire réfléchir justement aux contradictions de notre société ou à des choses politiques qui se passaient loin de l'Europe et qui donc étaient dans une sorte d'indifférence, traitées dans une sorte d'indifférence ici. Et donc, il avait quelque chose comme ça de très engagé politiquement, mais pas sous forme d'un parti, pas sous forme d'un discours, uniquement sous la forme artistique de performance.
Eh ben super. Bon, on va revenir sur tout ce dont vous avez parlé, ton film, Virgile. Le cimetière, on terminera avec. Tu me diras concrètement de quoi il s'agit, mais commençons par le début. Les années précédentes, Frasque débutait lors de la Nuit Blanche. Ce qui n'est pas le cas cette année. La raison, je crois que c'est qu'elle a déjà eu lieu.
Il y a un an, la mairie de Paris a décidé et la métropole de modifier la date.
Ah oui.
un peu soi-disant avec un référendum citoyen sur leur site. En fait, il y a 200 personnes qui ont voté. Enfin, peu importe. En tout cas, ils ont décidé que ce ne serait plus à l'automne, mais la première samedi d'octobre, mais début juin.
Ah, mais c'est ça, d'accord.
Donc, c'était une année bien intense, avoir deux nuits blanches à 8 mois d'intervalle. Mais voilà, donc maintenant, c'est début juin. Et effectivement, Frasque, depuis ses débuts... commençait toujours avec Nuit Blanche. Donc, ouais. Moi, je vois ça au début, je me dis, waouh, ça va vraiment modifier l'épaisseur, on pourrait dire comme ça, le volume de Frasque. Et puis en même temps, je me suis dit, bah, c'est pas que pendant Nuit Blanche, on ne faisait pas, il n'y avait pas des formes performatives, bien sûr qu'il y en avait, mais il y avait une volonté aussi vraiment de s'ouvrir dans la ville. Ouais. Bon, je me suis dit, bah, c'est peut-être, ça va resserrer sur le sujet, encore plus.
Ah, d'accord, bah ouais.
Tu vois.
Parce que c'était ma question, justement. Moi, j'aimais bien le fait que ça aille dans la ville, la gentille.
Mais ça allait complètement le premier samedi de juin, maintenant.
D'accord, bon.
mais dissocié de Frasque, peut-être que ça resserre les boulons et ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce que le sens et puis, en quoi ça consiste, en fait, c'est resserrer justement sur les questions de la performance. Et là, en l'occurrence, aussi grâce à ton film, aussi, il y a une dimension aussi retour vers l'histoire. Enfin, je trouve finalement très. Comment dire, c'est comme un. On revient à l'essence, on peut dire comme ça. Enfin, c'est une raison qui, en tout cas, motive.
Très bien. Alors, donc du coup, le festival Frasque des rencontres à la performance débute le 7 octobre avec Show You Frasque. Alors, peux-tu, Anne, nous dire à nouveau, comme tous les ans, de quoi il s'agit ?
Eh bien, avec David, tu étais venu ici en 2017 et ensuite, je t'avais demandé si on pouvait passer un moment justement pour réfléchir sur Frasque qui existait déjà depuis 2009. Oui. Et donc c'était en 2017 et on n'a pas attendu longtemps finalement pour arriver à réaliser le premier Show Your Frasque qui a lieu en mars 2018.
Ah oui.
Donc on est je sais plus à la combienième édition.
15e.
Voilà, 15e édition. Et non, ça c'est Frasque.
C'est de Frasque. Ah oui, Show Your Frasque, oui, je sais plus.
C'est vrai que j'arrivais à un moment en tant que un lieu d'accueil et organisateur de Frasque, une sorte de pas d'épuisement, mais de lassitude. Il y a eu des choses vraiment formidables jusqu'en 2017, hein, c'est pas ça la question, mais nous, en tant qu'organisateurs, la logistique avec chaque soir, c'était 3 week-ends, trois performances. En fait, j'avais l'impression de devenir prestataire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on était tellement dans des questions matérielles, d'organisation technique. Enfin, c'est normal et ça se passait très bien, mais une sorte d'envie de rebattre un peu les cartes pour des raisons aussi, de limite de nos moyens. Enfin, je me suis dit, mais en fait, il y a des équipes, ils font ça une fois par an et puis ils font rien le reste de l'année. Nous, on enchaîne avant et après avec un lieu à maintenir et il y a minimum de programmation à faire. Donc, je vais faire bref, on est arrivé à dire, le temps de production, il est lent. C'est-à-dire que quand on est invité à faire quelque chose, c'est souvent 6 mois, 1 an après. Ça, c'est une des raisons. Mmh. En fait, on n'a plus envie forcément de le faire. Donc, on va créer un format qui consiste à... On se réunit, les artistes qui veulent, 3 semaines avant. Comme on s'est inspiré, ça, c'était ton idée, des productions de Maritier et Gilberte Carpentier.
Tiens.
À la téloche.
Oui, parce que j'avais lu qu'ils procédaient comme ça, à une autre échelle et puis dans un autre but, mais ils réunissaient les vedettes chez eux, ils leur offraient le thé, le couple Marie-Thierry-Gilbert Carpentier, quoi, ils aimaient bien faire ça dans leur bel appartement, etc. Pour créer une forme d'ambiance, ils se connaissaient tous. Et puis finalement, mais il y avait aussi les équipes techniques, des représentants des équipes techniques, en tout cas du chef d'écho, etc. Et dans ce que j'ai compris, c'est que pour faire le show qu'on voyait, qui au départ d'ailleurs était en direct, ouais. Après qui était enregistré, mais qui était en direct au départ, et donc un peu une forme de spectacle vivant aussi finalement, il était, on se revoyait, je sais pas combien, 5 semaines après ou 6 semaines après, et dans ce temps-là, fallait que les décors soient faits, fallait que tout soit mis en place. Donc il y avait ce côté production montée comme ça en certainement, mais peut-être pas aussi. Ils ont amené quelque chose certainement dans ce couple-là d'essayer de préserver une forme de spontanéité qu'on ressentait d'ailleurs dans les shows, un amusement. Alors que c'est une énorme production, ce qui est pas le cas en générateur. Mais j'aimais bien l'idée que on se voit une fois d'abord de rendre aux artistes, parce que je trouvais qu'effectivement Anna en avait beaucoup sur les épaules, comme si tout d'un coup c'était une énorme boîte de prod, et c'est pas le cas. Il y a pas les équipes, il y a pas tout ça. Donc fallait que les artistes aussi qui y viennent, ils reprennent un peu conscience de où ils étaient. Donc le mieux c'était de leur rendre de leur donner la main en leur disant le générateur vous offre un espace, un temps donné, démerdez-vous là-dedans, avec comme idée que vous y faites ce que vous voulez, mais c'est pas un lieu d'expo, c'est pas pour amener son petit objet qu'on a fait chez soi ou qu'on sa spécialité qu'on vient, c'est pas un truc de dégustation. C'est pas le meilleur ouvrier de France, c'est histoire de ramener ce qu'on est avec sa pratique. Est-ce qu'on s'en servira ou pas, en amenant aussi quelque chose de soi qui ne sait pas faire, de mettre ce beau monde là ensemble et de se dire maintenant on a un temps réel qui va s'écouler avec des gens qui vont venir voir, qu'est-ce qui va se passer si on est là en présence. Et donc ça a un peu pris comme ça, mais effectivement on se réunit régulièrement pour résister à l'idée de peaufiner trop quelque chose, préparer trop, de se blinder trop. Ça veut pas dire qu'on n'y pense pas, mais d'essayer d'y penser jusqu'à une certaine, on essaie d'encourager à ça, un petit peu avant le moment où ça se cristalliserait pour devenir un objet, voilà. Donc venir préparer, mais sans plus. Et voilà.
Pour bien comprendre, est-ce qu'on peut parler de conducteur ou de, comme moi j'ai à la radio, ou de trame?
Non. Non, il y a même pas ça. Il y a, par contre, quand quelque chose finit par venir bien, enfin, je sais pas, comme certains éclairages ou l'emplacement du son, par exemple, puisqu'il y a des musiciens souvent, ça se questionne. Ça permet de questionner pas mal de choses, d'expérimenter. On a vu qu'au centre, souvent, ça veut pas dire que ça restera toujours comme ça, mais ils ont bien aimé être là et ça a bien fonctionné. L'écoute était intéressante. Donc, ça se fait, ça se défait. Non, il y a justement pas de conducteur. C'est improvisé dans sa globalité. Mais à l'intérieur de cette improvisation, puisqu'on ne sait pas ce que les uns les autres vont faire, il y a des mini-cellules improvisées ou plus ou moins improvisées qui vont en tout cas devoir exister au milieu de ce capharnaüm qu'il va y avoir autour, ou quelquefois pas capharnaüm, ça peut être très tranquille aussi.
Donc les mini-cellules, c'est comme des interactions entre les artistes.
On n'y est pas obligé. Faut pas forcément se donner la main.
Ah, j'ai du mal avec ça, hein, tu vois.
Mais non, c'est chacun qui vient avec ce qu'il est, si tu veux. C'est comme si on disait, en fait, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'idée que on n'est pas forcément ce qu'on produit. Ouais. On est ce qu'on a expérimenté. Ouais. Donc, un acteur, c'est un acteur. Un sculpteur, une peintre, c'est une peintre. Elle a un vécu, elle a un savoir. Elle n'a pas forcément besoin de son pinceau pour faire la toile. Donc, si elle vient avec ce qu'elle est, l'idée, c'était de regrouper des artistes. Mais pas forcément pour qu'ils produisent ensemble, pour qu'ils soient mis en présence. C'est plus reconstituer une réserve naturelle. Voilà. Donc, et puis après, on voit, on ne doit pas intervenir dans une réserve normalement après.
Oui, c'est il y a donc en préalable, il n'y a pas de déroulé en fait. Voilà, chacun peut intervenir au moment où il le souhaite. On peut, enfin moi je trouve que c'est comme un biotope vraiment organique, vivant, dans lequel chacun peut évoluer et, avec des complicités ou au contraire des heurts entre parfois aussi ça c'est arrivé et le public lui est libre d'accéder, de partir, de rester, il doit faire son chemin aussi là-dedans, donc il prend, moi je dis toujours, il doit prendre ses responsabilités de là, et c'est sûr qu'il est pas dans un fauteuil et il découvre parfois avec stupeur ou parfois avec super content, il se balade au milieu de toutes ces créatures ou en tout cas ces propositions dans l'espace du générateur.
Eh oui, c'est ça. Alors après, moi, je faisais un peu le candide parce que j'avais assisté à plusieurs reprises et je vois très bien comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien, d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a... je me demandais si c'était pas l'essence de... Alors bon, par rapport à ce que vous avez dit avant, ça va tomber à plat, ce que je dis, mais est-ce que c'est pas un peu l'essence de la performance, cette façon de faire et puis ce chaos, entre guillemets, parce que c'est pas...
Bah, je pense que, en tout cas, c'était aussi une... Il y a derrière ce format, il y a aussi la question de l'auteur aussi qui est tout d'un coup aussi questionné. Enfin, qu'est-ce qu'un artiste et on en rencontre quand même souvent. Enfin, ça dépend où, mais qui ont quand même un ego très très dimensionné.
Ça arrive. Ouais.
Et qui font que bien ils détiennent une sorte de vérité sur ce qu'ils font, sur les autres. Et la signature aussi d'une œuvre, enfin par ce format qui, je dirais, horizontal plus dans sa construction, eh bien, ça questionne aussi cette position de l'artiste. Et je pense que c'est... Moi, j'en fais jamais partie en tant qu'artiste, mais ça ramène une sorte d'humilité aussi directement chez chacun, qui, je pense, est toujours très salutaire.
Et puis de difficultés, c'est pas si facile parce qu'on se retrouve devant un temps, son existence propre, sa capacité. Bon, voilà, on est. Donc il y a toutes ces. Ça, c'est intéressant, oui. Moi, je trouve. Mais c'est effectivement une essence. Mais moi, je dirais, pour moi, c'est une essence de ce que... d'une partie de ce que peut proposer le générateur, en tout cas. Ouais. Pas de la performance son histoire. Mais...
Donc, alors, c'est un rendez-vous récurrent. Tu demandais le nombre, effectivement. C'est plus, bien plus que 15. Je crois que c'est pas loin de 30 ou 28.
Non,
ou...
je pense pas. Écoute,
18 peut-être. Peu importe. Mais effectivement, ce que je voulais savoir, moi, c'est s'il y a... Donc, il y a David, il participe régulièrement. Là, j'ai vu dans la liste, il y a une... Je sais pas, une vingtaine peut-être, je dis ça au hasard.
Oui.
Il y a bien une vingtaine d'artistes, dont certains qui sont venus ici, Michael Berdugo, Sonia Codan, Cyril Leclerc, évidemment. Et je voulais savoir s'il y a des nouvelles recrues, entre guillemets, est-ce qu'il y a des nouveaux artistes qui sont jamais venus, dont ça va être la première.
Oui, on sollicite d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un groupe qui s'est constitué assez fidèle.
Ouais.
En fait, ça s'est aussi beaucoup cristallisé, cette notion de groupe au moment du Covid, parce qu'on a fait des éditions de Show Your Frasque sur Zoom, sur une initiative de Dit Julius. On était tous chacun chez soi, je l'ai fait rapide, et on s'est approprié cet outil Zoom que personne connaissait pour faire des performances, des rendez-vous tous les samedis avec chacun faisait une performance de chez lui et on ouvrait ça au public.
Ah,
et en fait, ça nous a énormément permis de nous connaître mieux et créer une histoire commune.
Comment t'expliques ça? Parce que de ce fait, vous n'étiez pas en présence.
Oui, mais avant, la veille, le vendredi, on a eu une réunion sur Zoom.
Toujours le même principe. Donc,
avoir une unité minimum de son. Mais donc, on pouvait assister parfois à 15 performances en même temps. Ça a été vraiment un moment c'est exagéré sans doute, mais historique dans l'aventure de Show Your Frasque, avec d'autres contraintes bien sûr liées à l'image, au son partagé. Mais donc ce groupe, oui, on rencontre, j'en rencontre sûrement pas assez, mais la scène ouverte Pile ou Frasque aussi nous permet parfois de découvrir des nouveaux artistes. Et puis les uns et les autres de cette communauté sont invités, bien sûr, à inviter quelqu'un qui se sente prêt à affronter ce chaos ou cet Éden, ça dépend.
Ah, très bien. Bon, je propose qu'on écoute un extrait du film de Virgile Novarina, puis on en parle après.
Travailler plusieurs mois dans un abattoir, partir pour la Chine à vélo, braquer une banque pour un franc symbolique, casser l'urinoir de Marcel Duchamp, se couper un doigt pour protester contre l'enlèvement d'Ingrid Betancourt. Dans la longue liste des happenings de Pinoncelli, nombre lui ont valu blessures, arrestations, procès et amendes.
On appelle ça de l'art, mais pour moi, c'était de l'enfance qui continuait, quoi.
J'ai vu qu'il aspergeait André Malraux d'encre rouge ou de peinture rouge.
Est-ce que vous pensez que choquer l'opinion publique peut servir à quelque chose ?
À mon avis, c'est la seule chose par laquelle on fait remuer un peu les gens, c'est les choquer, sinon là, les gens se fichent de tout.
On méconnaît ce fait que c'est un artiste d'avant-garde authentique.
Les artistes, certains d'entre eux en tout cas, étaient capables de prendre des risques, autant aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent ça.
Il y a du Pinoncelli dans nous tous. Demain, peut-être, on se réveillera et on dira « Mais cet homme avait raison ».
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à la 15e édition du festival Frasque, qui aura lieu à partir du 7 octobre jusqu'au 22 octobre au Générateur à Gentilly. Nous recevons Anne Dreyfus, David Noir et Virgile Novarina. Alors Virgile, on vient d'écouter la bande-annonce de ton film, mais avant de parler du film, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours. Quel a été ton parcours artistique ?
Ah, donc disons que j'ai fait une sorte de demi-tour à un moment donné, parce que j'étais, bien que né dans une famille d'artistes, j'étais pas du tout attiré par ça en étant enfant, adolescent, et j'étais vraiment passionné par les sciences, et donc notamment grâce à un professeur de mathématiques aveugle que j'ai eu la chance d'avoir en première terminale, qui était fascinant. On faisait des mathématiques dans l'air, il avait pas de calculatrice, il écrivait pas au tableau, il avait jamais de figure pour la géométrie. Donc c'était assez magique. Donc après j'ai eu un parcours, voilà, maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à m'intéresser au sommeil. Et là, petit à petit, c'est vrai que j'étais fasciné de découvrir ce continent à explorer, parce que c'est vrai qu'on connaît très peu de choses, même s'il y a beaucoup d'études dans plein de disciplines, ça reste quand même très mystérieux. Et donc, petit à petit, voilà, c'est devenu plus passionnant pour moi que les sciences. Donc j'ai bifurqué vers l'art et le cinéma. Et vers le cinéma parce que dans mon école d'ingénieur, j'ai eu un professeur d'analyse filmique, parce qu'on avait des séminaires culturels, qui est le cinéaste Jean Seban, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et avec lui j'ai appris le montage, le tournage, etc. Donc tout naturellement, après cette rencontre formatrice, je me suis mis à faire mes propres films.
Ah, super. Mais alors, par rapport au sommeil, peux-tu nous expliquer quelles ont été les motivations, tes motivations pour aller dans cet axe, et puis quel axe justement de recherche tu as eu ?
Oui, en fait, il y a eu trois étapes. La première, c'est quand je préparais justement les concours aux grandes écoles et que je notais dans un carnet tous les jours combien de temps je travaillais dans chaque matière. Donc par exemple, j'écrivais mathématiques 5 heures, physique 4 heures, anglais 1 heure, bon. Et puis je me disais, mais c'est fou quand même, quand je fais 5 heures de mathématiques, j'ai l'impression que c'est beaucoup, mais si je dors 5 heures, c'est pas du tout assez. Et donc paradoxalement, je me disais, mais c'est incroyable, il faudrait presque que j'écrive sommeil 8 heures, quoi, dans les choses, dans mon occupation très très réglementée, comme ça que je m'étais fixé moi-même avant les concours. Et j'avais l'impression que le sommeil était quelque part ma matière principale et non les mathématiques, et que je savais rien dessus, mais rien du tout. Et comme en plus on dort vraiment beaucoup, puisqu'en moyenne c'est 8 heures sur 24, c'est-à-dire un tiers de notre vie, vers 18 ans, je me suis dit, ok, un tiers de ma vie, ça veut quand même dire que j'ai dormi 6 ans, et j'ai été éveillé 12 ans. Et donc j'étais étonné de voir qu'il y avait 12 ans de ma vie que je connaissais quand même grâce à des souvenirs, etc., et 6 ans de ma vie que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'était le premier choc. Après, j'ai développé ma mémoire pour lutter contre l'oubli, puisque quand on se réveille, en général, on oublie tout. Et ça s'est développé. Et là, j'ai vu aussi que, en fait, quand on n'oublie pas, le sommeil est un moment très riche, où le cerveau est très créatif, il se passe beaucoup de choses. Et donc ça m'a impressionné. Et puis, en continuant de développer ma mémoire, j'ai eu la surprise aussi de voir qu'il n'y avait pas que les rêves dans le sommeil, mais qu'on avait plusieurs états différents, où on a quand même des perceptions visuelles, sonores, etc. Et donc, c'est là que ça a bifurqué. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un autre espace du sommeil que celui des rêves. Et là, petit à petit, ben, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens qui travaillaient sur le sommeil, dans différentes disciplines, hein, l'écrivain Pierre Pachet, par exemple, le philosophe Jean-Luc Nancy, voilà, des écrivains, des artistes, des médecins, des chercheurs, etc. Et puis, petit à petit, ça a pris la forme, voilà, d'expositions, de performances. Et donc, comme parallèlement, je savais faire des films, j'ai fait un premier film sur le sommeil. Puis, j'ai eu envie de faire un film sur le peintre Jean-Olivier Hucleux, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration. Et à la suite de ça, j'ai fait un film sur une œuvre d'Edouard de Katz, qui a été réalisée dans l'espace, parce que conçue spécialement pour la pesanteur. Oui. J'ai fait des films sur l'artiste Orlan aussi, un sur le baiser de l'artiste, et puis un sur le tangible striptease en nanoséquence. Et puis le dernier en date, c'est sur l'artiste-performeur Pierre Pinoncelli, sur lequel j'ai fait un long métrage, finalement, qui retrace toute sa vie et toute son œuvre.
Alors, peut-être que tu peux nous dire, moi je ne connaissais pas hein, Pierre Pinoncelli, nous dire qui il était et ce qu'il faisait.
Oui, alors paradoxalement, il était à la fois inconnu et célèbre, parce que c'est un artiste qui n'a quasiment exposé nulle part. Il y a très peu de catalogues de lui, où il date des années 70, ils sont très difficiles à trouver, etc. Et en même temps, il y a eu des articles dans le monde entier sur certaines de ses performances, mais on disait même pas que c'était une performance, on disait pas que c'était un artiste et on disait pas son nom. Donc il est à la fois inconnu et célèbre. Mmh. Et moi justement, je suis tombé dans le piège la première fois que j'ai entendu parler de lui. C'était une émission de radio en 2006, aux journaux de 19h je crois, où j'entends un homme de 74 ans a donné un coup de marteau dans l'urinoir de Marcel Duchamp, exposé au Centre Pompidou dans l'exposition Dada. Et voilà, donc sans information supplémentaire, j'ai trouvé ça triste et j'ai imaginé que c'était soit un déséquilibré mental, soit quelqu'un qui était hargneux vis-à-vis de l'art contemporain.
Oui, voilà, ouais.
Donc c'était mal parti pour faire un film sur lui. J'aurais jamais cru d'ailleurs, si on m'avait dit un jour tu feras un film sur lui, j'aurais pas cru. Mais 3 ans plus tard, j'ai lu un article dans la revue Supérieur Inconnu, écrit par Sarah Alexandrian, qui retraçait tout le parcours de Pierre Pinoncelli. Et là, d'abord, j'ai compris que ce geste sur l'urinoir de Duchamp, c'était un hommage à Marcel Duchamp, qu'il avait rencontré Marcel Duchamp en 67 à New York et qu'il lui avait annoncé qu'il allait faire quelque chose dessus. Donc déjà, j'étais épaté de voir que c'était pas un vandale, mais en fait une performance artistique. Et d'autre part, j'ai vu tout le reste de son parcours à chaque paragraphe, je me disais, mais cet artiste est incroyable. Et en même temps, je me disais, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Donc à partir de là, j'ai continuer mes recherches et c'est devenu comme une drogue. Et plus j'ai approfondi sur Pinoncelli, plus ça m'a interpellé, plus ça m'a intéressé. Et j'ai fini par lui écrire une lettre. Et au départ, je voulais pas forcément le rencontrer parce que il a fait certaines performances très violentes. Par exemple, il s'est mutilé publiquement en 2002. Il s'est coupé un doigt en Colombie. Il a braqué une banque avec un vrai fusil en 1975, mais pas pour l'argent, pour des raisons politiques, justement. Et puis, il a détruit une œuvre dans un musée. Donc, c'était pas quelqu'un avec qui je me suis dit, tiens, ça va être sympathique, on va aller prendre un café avec lui, on va discuter. J'étais un petit peu impressionné, quoi. Et il a répondu à ma lettre, et j'ai vu qu'il avait beaucoup d'humour et qu'il pratiquait aussi l'autodérision. Donc, après cette relation épistolaire, la fois d'après où je suis descendu dans le sud de la France, parce qu'il habitait à Saint-Rémy-de-Provence, je lui ai fait signe, j'ai été chez lui. Et là, ça a été une rencontre très forte, où ce jour-là, donc c'était en avril 2010, j'ai décidé de faire un film sur lui.
Ah d'accord, voilà. C'était ma question, quelles ont été tes motivations Mais alors, est-ce qu'il y a, tu nous as donné 2-3 exemples là, mais j'imagine que son œuvre est plus étoffée, que ça ne se résume pas à des coups d'éclat.
Oui, tout à fait. En fait, d'abord, il était peintre dans les années 50-60, et il a fait plusieurs séries de peintures que j'ai trouvées très fortes et que j'ai découvertes justement quand j'étais chez lui dans son atelier. Donc en 1962, il a fait une série qui s'appelle 40 morts, et un des morts va être exposé au générateur justement le 15 octobre. C'est une série de peintures de 1962. Après, il a fait 30 métamorphoses, qui étaient aussi 30 peintures qu'il a exposées à la galerie La Cloche. Et ensuite, une série qui s'appelle L'étoile cible et Faire l'amour à Pékin. Et c'est vrai que ces œuvres de peinture, elles dégagent quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et on peut dire qu'il avait bien commencé comme peintre, puisqu'il avait plusieurs galeries, il a eu des catalogues, etc. Mais pour lui, quand il est passé de la peinture à la performance, il a arrêté de peindre. Parce qu'il voulait pas, surtout il voulait dissocier les deux, il voulait pas qu'on le soupçonne de faire des performances pour mieux vendre ses peintures. Ah, ouais. Comme ça avait été sans doute le cas de Salvador Dali, qui se servait parfois de certaines performances à des fins commerciales pour faire venir du monde, comme un de ses vernissages où il est venu dans un scaphandre, comme s'il allait sous l'eau, avec deux grandes laisses et deux gigantesques chiens en sortant de sa Rolls-Royce. Et donc, Pinoncelli voulait vraiment séparer l'art et l'argent. Il m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant, que j'ai pu vérifier dans mes recherches, c'est que quand il est passé de la peinture au happening et aux performances, les articles sur lui sont passés des pages culture aux pages faits divers. Et c'est vrai. Et par définition, c'est vrai que les faits divers, on les oublie. Les performances, c'est quelque chose qui a lieu que sur le moment, normalement, pour les gens qui sont présents. Et donc, la question des traces de la performance, elles sont essentielles. Comment une œuvre comme ça, éphémère et immatérielle souvent, peut être pérenne? Comment peut-elle revivre des années plus tard auprès d'un autre public? Et c'est vrai que comme le cinéma a parfois cette vertu de nous transporter dans le temps ou de nous faire revivre des événements passés comme si c'était aujourd'hui, eh bien c'est vrai que entre le cinéma et les traces de la performance, il y a quelque chose qui peut se jouer pour quelque part redonner vie à des événements qui sont terminés.
Alors, quelle est la matière du film? Est-ce qu'il y a des images d'archives? Est-ce qu'on voit ces mutilations, ces actions d'éclat? Tu dis de l'avoir rencontré. Est-ce que il s'agit de filmer vos échanges? De quoi est fait le film exactement?
Quand j'ai décidé de faire le film, donc en avril 2010, je me suis fixé un objectif difficile à atteindre, et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à faire de ce film. C'est que je me suis dit, justement, je vais avoir la possibilité d'interviewer Pinoncelli, et ça c'est merveilleux, parce que il raconte très très bien, il revit les choses quoi quand il les raconte. Je vais avoir accès à 16 archives, mais il n'a pas beaucoup d'archives, c'est-à-dire qu'il faisait pas exprès de demander à quelqu'un de faire des photos pendant qu'il allait faire une performance, etc. Il y en a certaines où il y avait rien. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer de trouver d'autres archives, et surtout, j'espérais trouver un témoin de chaque performance qui pourrait me raconter et témoigner de ce qu'il a vu. Sachant que certaines performances ont eu lieu 50 ans plus tôt, je sais qu'il y avait des gens, mais j'avais ni leur nom ni leur adresse. Donc là a commencé une sorte d'enquête, un peu comme un détective privé amateur, où je cherchais des témoins, et finalement, j'en ai retrouvé 26, dont 25 qui ont accepté de témoigner pour le film. Je les ai interviewés en France, en Belgique, en Angleterre et en Colombie, puisque c'est là effectivement qu'il s'est coupé le doigt. Et là, j'ai trouvé des archives de la télévision colombienne, des archives du festival qu'il avait invité. Et donc effectivement, j'étais un peu choqué de voir ces images d'automutilation. Et je me suis questionné sur le fait de les mettre ou non dans le film. Et j'ai interviewé dans ce contexte Ingrid Betancourt, parce que c'était par rapport à son enlèvement que Pinoncelli a fait cette performance. Et c'est en discutant avec elle que je me suis dit que oui, il fallait mettre ces images, même si elles sont vraiment très très choquantes.
Ah ouais. Ouais, ok. Et donc le film est sorti en 2022, tu as mis donc 12 ans à le faire.
Oui, exactement. C'est vrai qu'entre le moment où j'ai décidé de faire ce film et le moment où il est sorti, il y a eu 12 années. Pendant lesquels j'ai pas fait que ça, parce qu'il y a eu des moments de blocage. J'ai fait deux autres films, par exemple, qui ont été plus rapides à faire, un sur le sommeil et un sur Eduardo Katz. Mais puis j'ai fait d'autres choses que des films, mais souvent c'était bloqué, d'une part dans ma recherche de témoins, aussi dans la recherche de documents et dans la recherche de financement, parce que c'est vrai que c'était aussi très difficile de financer un film sur un artiste méconnu, mal compris, qui était vraiment contre les institutions. Et donc aller voir une institution en disant « Bonjour, je vais faire un film sur un artiste qui est contre les institutions », c'était difficile. Surtout que, par exemple, Pinoncelli a été pendant 6 ans en procès contre l'État français et le Centre Pompidou après avoir cassé l'urinoir de Marcel Duchamp la première fois. Donc 6 ans de procès. Et il l'a recassé 13 ans plus tard pour un autre procès qui a duré 2 ans. Donc effectivement, c'était assez difficile. Mais finalement, on a trouvé des partenaires, d'abord des associations, puis la région Normandie, et finalement le CNC, ce qui a permis voilà de faire ce film qui dure 1h30, qui est sorti en salle, qui est sorti en DVD et qui est sorti en VOD, et pour lequel il y a une tournée qui est actuellement en cours.
Bah, c'était ma question, je voulais savoir s'il était sorti en salle en fait. Il est sorti en 2022, donc l'an passé.
Voilà, il est sorti au cinéma Le Saint-André-des-Arts dans le cadre du programme Découverte.
Ouais.
Et après, il y a eu une quinzaine de villes qui ont fait une projection, souvent suivie d'une rencontre autour de Pinoncelli. La prochaine aura lieu à Nice le 23 septembre. La suivante au Générateur dans le cadre du Festival Frasque le 15 octobre. Et la suivante à Orléans, à l'Université, le 29 novembre.
Le 15 octobre au Générateur, Pierre Pinoncelli, l'artiste à la phalange coupée. Et alors, tu as parlé d'une exposition également ?
Oui, alors ça va être une projection très spéciale parce que ce ne sera pas juste un écran avec des chaises devant. D'une part, il va y avoir une discussion après le film avec un intervenant qui a bien connu Pinoncelli. Et puis, on va échanger avec le public. Et d'autre part, on va faire une exposition éphémère, puisqu'elle va durer que le jour de la projection. Et en fait, on va faire une sorte de panorama et montrer une œuvre de chacune de ces séries de peintures et de sculptures. Donc, depuis la série des morts en 1962, jusqu'à sa série de peintures à la bombe, La naissance de Dada, qu'il a faite en 2016. Parce que sans arrêt, il a arrêté et repris, aussi bien la peinture, il a arrêté puis repris, la performance, il a arrêté puis repris, puis réarrêté puis repris. Il y avait un truc plus fort que lui, où sans cesse, il y revenait, même si ça lui a généré des procès, des arrestations, des amendes, des blessures, etc.
Tu en parles au passé, il est décédé ?
Oui, il est décédé en 2021. Mais heureusement, il a vu le film quasiment terminé. Et c'était vraiment important, bah, d'une part, dans ma relation avec lui, mais d'autre part aussi parce qu'il y a beaucoup de choses fausses sur Pinoncelli qui circulent sur Internet ou même dans des articles de presse écrite qui n'étaient pas très rigoureux. Et donc aussi parce qu'il a fait des choses tellement dingues que le bouche à oreille a déformé les choses et donc finalement, il y a des choses fausses sur lui. Et donc, je tenais à ce que mon film ait une certaine rigueur scientifique par rapport à tout ce qu'il avait fait et le fait qu'il ait vu le film. Et je lui ai demandé à la fin, voilà, est-ce qu'il y a des choses inexactes ou fausses qu'il faut changer ? Il m'a dit non, il n'y a rien à changer.
Ah bah super. Ouais, bah super. Alors,
moi, je viens juste rappeler que ben, cet événement de film projeté pendant Frasque vient d'abord d'une rencontre précédente, puisque tu as performé avec justement la thématique du sommeil avec une pièce qui s'appelle Rêve quantique, et c'était dans un événement qu'on avait produit en avril dernier qui réunissait Art et Science, et le titre c'était de la performance à la micro-performativité. Donc il y avait là un partenariat aussi avec Polytechnique, etc. Saclay.
Et la chaire Art et Science.
Voilà.
De l'École Polytechnique et de l'ENSAD. Donc c'est vrai que c'est une chaire qui a été créée en 2017 et qui a permis à beaucoup d'artistes et de scientifiques de travailler ensemble pour des projets à la fois art et science. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marc Chaumaz, Laurent Karst et Walid Brady pour un projet qui s'appelle Rêve quantique, le jour où j'ai imaginé l'océan. Et pendant cette performance qu'on a fait au Générateur, en fait, je dormais en public avec des capteurs. Et en fait, la richesse des profondeurs du sommeil était retranscrite en temps réel dans un océan miniature qui était piloté par mon cerveau et qui montrait, voilà, des courants, des volutes, des vagues et des turbulences en direct. C'est-à-dire que le côté inaccessible du sommeil, séparé de la veille, était un petit peu ébranlé par cette connexion qu'on avait pu montrer pendant le colloque sur la micro-performativité, qui de manière générale traitait de performances qui se jouent en partie à l'échelle microscopique.
Oui.
Donc là, par exemple, moi, c'était dans le cadre finalement de l'activité de mes neurones, qui était devenu palpable dans cette performance pour le public, mais il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'art qui ont été là analysés, relayés par différents chercheurs tout au long de cette journée de colloque.
Ah bah super. Alors moi je suis content de voir que le générateur va redevenir une salle de cinéma, parce que je crois qu'historiquement c'était un
cinéma. C'est vrai, puisqu'il s'appelait le Gaîté Palace jusqu'en 69, quelque chose comme ça.
Et alors Anne, David, je voulais vous demander si vous connaissiez Pierre Pinoncelli. Moi je ne connaissais pas du tout.
Non, pas du tout, j'ai découvert dans le programme Frasque.
Moi,
je voulais te demander, tous ces entretiens, tu les as fait seul avec une caméra vidéo ou...
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait assez peu de moyens pour ce film, surtout au début où on n'en avait pas, mais j'ai quand même commencé. Donc j'avais une petite caméra qui tient dans la poche, un Handycam de chez Sony, mais qui est quand même de bonne qualité parce qu'elle est HD. Et j'avais un micro zoom enregistreur que j'ai posé sur son bureau. Et donc c'est quelque chose d'assez intime entre lui et moi. Et je suis allé voir très très souvent aussi pour qu'on aborde vraiment en détail chacune de ses performances. Après, pour les autres tournages, parfois il y avait un peu plus de moyens, parfois il y avait une deuxième personne pour filmer avec moi. Mais quand j'ai été par exemple en Colombie pour filmer, j'étais tout seul, j'avais pas de caméraman, j'avais pas de preneur de son, et j'avais pas non plus de traducteur, alors que je ne parle pas espagnol. Donc j'ai fait mes entretiens où j'avais préparé 20 questions en espagnol, parce que les gens que je voyais parlaient ni français ni anglais. Donc je posais ma question en espagnol, et là je comprenais rien à la réponse. Et quand la personne avait fini, je lisais ma deuxième question, et là je comprenais rien.
Oui,
phonétiquement, voilà. Et donc, parfois ils étaient surpris, parce que je suppose que je leur demandais quelque chose qu'ils venaient de dire, et je me suis retrouvé dans l'avion sans savoir du tout ce que je ramenais, un peu hébété. Et finalement, une cousine qui est bilingue m'a traduit ce qu'ils avaient dit. Et là, j'étais enchanté parce qu'il y avait des choses passionnantes que je ne savais pas sur cette performance d'automutilation en Colombie, mais que même Pinoncelli ignorait.
Ah oui.
Et donc lui-même, grâce à ses archives inédites que j'ai constituées ou rassemblées pour le film, a appris des choses sur son propre travail, sur la réaction du public, sur la réaction des institutions, de la police, etc. Parce que j'ai aussi interviewé un CRS et un policier qui l'ont arrêté. Donc lui-même a appris des choses un petit peu sur ses propres actes.
Ah bah super. Bon, écoute, moi, ça donne vraiment envie d'aller le 15 octobre donc, au générateur. On va écouter un morceau de musique, The Enemy of Gloves de Christophe Hims. Et puis on parle avec David. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on parle aujourd'hui du festival Frasque qui aura lieu du 7 au 22 octobre au Générateur. Et on vient d'écouter The Enemy of Gloves de Christophe Himes, acolyte de David Noir. Alors David, tu es déjà venu dans l'émission, on l'a dit, en 2017. Peut-être, tu en as un peu parlé au début d'émission, mais on peut peut-être approfondir sur tes travaux, sur la matière, sur quoi tu travailles exactement.
Justement, j'essaye d'en changer. Voilà. J'essaye, mais c'est un bon moment, justement, parce qu'il y a eu toute cette aventure de performance source, enfin, que j'ai vu que de loin, mais donc, j'ai vu le résultat, que j'aime beaucoup. Et cette idée des archives, ça m'a toujours intéressé aussi par rapport à ce que tu disais, Virgile, par rapport à la fragilité du moment, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le retient, ce qui a aussi des conséquences tout à fait concrètes, financières et autres. Est-ce qu'on a un matériau à vendre ou pas? Qu'est-ce qu'on a à vendre, finalement, à part soi, et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par rapport à la matière, moi, je suis souvent... je sais pas très bien ce que je suis, donc je réellement c'est pas une posture. Ouais. C'est-à-dire que je les découvre en le faisant. Donc moi, oui, initialement, il y a très très longtemps, moi aussi j'ai fait un petit peu des sciences, beaucoup moins que toi, mais un tout petit peu. Je voulais faire de la paléontologie et puis de l'herpétologie après, etc. Et puis finalement, bon, ça s'est pas fait. Et donc j'étais pas du tout tenté, même intimidé, par le fait d'être sur un plateau. Donc j'ai commencé par ce qui me venait tout à fait naturellement, qui était de faire des décors, du bricolage, choses comme ça. Après, le fait de la mise en scène, ça me semblait très simple aussi. J'écrivais pareil. Donc c'est une espèce de côté concentrique comme ça, jusqu'à être, tout d'un coup, me retrouver là. Et puis après, voilà, faire d'autres choses, de la performance cabaret. Donc je me vois plutôt comme un matériau moi-même, pour moi, que j'essaye de comprendre. C'est pas que je sois si mystérieux que ça, c'est-à-dire j'essaye de me défaire, autant que faire se peut, de... je me sens comme une sorte de pâte à modeler sur lequel il y a eu des gens qui ont mis le pouce, que ce soit mes parents ou je sais pas qui. Et disons que ce qu'on appelle les influences, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, j'ai une espèce de fantasme de virginité première qui n'existe certainement pas, mais tant pis, c'est mon truc à moi. Donc, j'essaye de me faire pousser moi-même comme me désentortiller un peu comme un bonsaï qu'on aurait embêté toute sa vie, quoi. C'est un peu la sensation que j'ai. Et dans les rapports sociaux et dans tout, en fait. Donc, j'interroge un peu tout ça en me disant, tiens, tout ce que j'ai produit, c'est jamais moi, jusqu'à présent. Ça me va jamais. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. Le corps, tout ce qu'on veut, la sexualité, tout ce qui m'a semblé des bêtises sociales qu'on montait en épingle alors que c'est notre nature, tout bêtement. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, finalement, de faire du sulfureux avec le cul, avec ça n'a aucun intérêt. La sexualité, ça a un intérêt, c'est sympathique parce que c'est des gens qu'on aime, quoi. C'est tout, on s'en fout. Moi, je m'en fous complètement de tout ça. Ouais. Comme le nu, je me suis mis tout le temps nu parce que d'abord, je me sens bien comme ça, mais je m'en fous complètement, en fait. Ça n'a pas d'intérêt en soi, il n'y a rien à porter au pinacle dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'on produit? Ça reste une question pour moi, ça. Et donc, je cherche tout le temps. Alors, il y a des gens qui m'ont effectivement, je dirais pas influencé, mais que j'admire. J'aime énormément les acteurs. Je vais très souvent voir pas des biographies, des bouts de vie, ce qui sont devenus, même des acteurs. Il s'agit pas forcément d'aller chercher, même ça m'était passionné pour un acteur de Dick York qui faisait Jean-Pierre Stevens dans Ma sorcière bien-aimée.
Oui. Dick York, oui.
Moi, pour moi, c'est très très fascinant, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cet homme des années 50, toujours souffre-douleur de sa belle-mère, etc., ben, qui est assez drôle, très bien incarné, et puis qui nous a porté enfants, pour ceux qui regardaient ces choses-là. Et lui, bon, bah, qu'est-ce que c'est son existence réelle? On voit des vidéos de lui où il a un emphysème, il est très très douloureux, il a fumé toute sa vie, parce que sur ses plateaux, on fumait. Et puis, il est très loin de ce monde-là, il était très très... dégoûté par Hollywood, tout ça, parce que lui, il supportait pas gagner autant d'argent. Enfin, c'est très intéressant de l'entendre. Donc tout ça, pour moi, c'est comme une sorte de monde entomologique, si on peut dire ça. Et je regarde, c'est peut-être mon côté scientifique à moi, un peu biologiste, de créer des... ou zoologiste, plutôt de créer des environnements. Ce qui m'est resté de l'enfance, peut-être que je continue à aimer, c'est... Je m'étais...
enfin, plein de gens ont dû faire ça, sur une table, de mettre plein de petites figurines de tout. Je mélangeais tout, des soldats, des dinosaures, des machins, tout ce qu'on veut, à perte de vue, avec de l'aluminium pour faire de l'eau. Enfin, je recréais l'évolution complète. Et je pouvais passer un temps infini, mais il fallait que le regard soit vraiment au ras du sol, quoi. Je mettais des trucs qui fumaient un petit peu, des machins. Pour pouvoir rentrer là-dedans, c'est un peu comme le sommeil, aller voir ce qui se passait dans mon propre imaginaire au travers de ça. Donc, le matériau, oui, c'est l'imaginaire, pas que le mien, parce que, non pas que j'en ai fait le tour, mais c'est pas ce qui m'intéresse forcément, c'est le rebond de la balle de mon imaginaire sur celui d'autrui. Qu'est-ce que ça me renvoie? Et donc voilà, est-ce qu'il y a une aura des gens qui est un peu plus intéressante que ce qu'ils font? Ou que ce qu'ils disent, ou que ce qu'ils sont? Parce qu'en fait, la vie des gens, c'est pas intéressant, souvent. Enfin, on a tous la même, quoi, plus ou moins, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Ou alors peut-être des grands criminels, ils font des choses que je fais pas, mais... c'est pas ça non plus. C'est qu'est-ce qu'on produit là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a avec nos doigts, avec notre tête? Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Parce que ça, on le choisit quand même un petit peu. On fait ça, on appuie là, on appuie là. Donc voilà, ces deux paramètres-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis en l'état, en ayant été modelé comme ceci, comme cela? Est-ce que je peux me défaire de ce modelage pour retrouver une espèce de forme peut-être pas très intéressante? Mais je préfère ne pas être intéressant, mais être moi.
Ah oui.
Donc, je cherche par là.
Bah, très bien, disons, c'est bien expliqué, c'est bien dit. Et peux-tu nous parler de retour sur investissement, alors?
Pas du tout, non.
Ah, bah, si, quand même. Si,
je peux en parler, mais je vais dire, comme on dit toujours dans les, enfin, on fait pas vraiment de la promotion, mais disons qu'on dit toujours, le problème, c'est qu'on est toujours invité avant, forcément.
Oui.
Mais c'est jamais prêt avant. Oui. Donc, on dit des bêtises, enfin, des choses qui ne vont pas être. Mais si je peux dire des choses, je vais essayer de dire quelque chose.
Bah oui, parce que
la forme, je sais pas ce que c'est, je sais. Si, on est, c'est Anne, d'ailleurs, qui a eu envie de ça, plutôt, donc, quand on en discutait. De la source sur la source des archives. Non, mais je rejette pas le projet,
la source.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de photos qui ont été prises à l'arrache, par Bernard Bousquet, qui est le mari de Anne et qui est peintre et qui est aussi, évidemment, un des piliers du générateur, le second pilier du générateur, et que j'aime beaucoup. Et donc, j'aime beaucoup la façon de faire des photos. C'est-à-dire que lui-même dira, c'est pas moi qui fais les photos, c'est Nikon. C'est-à-dire qu'il tient, il mitraille, il regarde pas dedans. Quelquefois, c'est, bon. Et forcément, il en fait beaucoup, de plus en plus, d'ailleurs, c'est ça qui était bien. Donc, il y a un rapport à sa présence, à nous, quand on est, on fait des choses au générateur, qui est très familière et qui est très appréciable, que j'aime énormément. Et donc, il se trouve que, il y a un stock de photos, alors que, dans lequel, se sont replongées l'équipe du générateur pour créer Performance Source.
Ouais.
Mais nous-mêmes, on en a parce que, voilà, on les connaît plus ou moins, pas toutes. Et donc, on s'est dit, mais ça en fait quand même beaucoup, parce que moi, j'ai dû faire depuis 2011, j'ai fait pas mal de choses au générateur, que ce soit des petites ou des grosses choses, des choses avec beaucoup de monde ou tout seul. Et donc, tiens, moi, j'aime bien l'idée de l'automatisation aussi pour s'épargner des efforts, parce que ça aussi, c'est un côté qu'ont les économistes, tous les gens qui font de la finance, ils ont raison, qu'il faut être automatisé. Donc, de mettre 3 disques durs, 3 vidéoprojecteurs et de balancer toutes ces images-là, comme ça, en diaporama rapide, dans des ordres différents pour qu'on n'ait pas les mêmes en même temps, mais s'entourer, voilà, de mon passage avec mes partenaires, et notamment Christophe, parce que Christophe Hims, donc, est un ami, surtout un musicien formidable, et que je connais depuis 2005, et avec qui on a, on a un rapport parfois compliqué, mais on a beaucoup d'affinités, beaucoup d'affection l'un pour l'autre aussi. Oui. Donc on a beaucoup fait de choses ensemble, et je pense qu'on se comprend relativement bien ou pas, mais en tout cas il se passe quelque chose quand on... Et donc on se fait confiance en tout cas. Et donc il a été là pour faire de la musique improvisée sur beaucoup de choses que j'ai faites au générateur. De la musique pas improvisée aussi sur la dernière chose qu'on a fait qui s'appelait Opéra Pastille, où on s'était donné un peu un défi là, de faire un micro-opéra où lui vraiment pour le coup là composera en amont, moi j'écrirai en amont et puis voilà j'interpréterai une cantatrice voilà qui dans une histoire un peu baroque. Donc voilà Christophe et donc ça m'est venu naturellement de lui demander s'il pouvait venir pour que de ce qui reste de ce voyage qu'on va faire en tout cas aux spectateurs dans ces photos qu'il n'y ait pas que de la diapo, qu'il y ait un peu de vivant. Et donc il viendra là, on mettra un piano, il travaille aussi avec beaucoup de matériel électronique autour. On fera du son, mais moi je sais pas trop ce que je ferai encore. parce que c'est aussi une notion très importante pour moi de dire que ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. En fait, ça n'a pas d'intérêt. J'aime pas avoir des projets. Parce que tout comme j'aime pas les choses qui se fixent à un moment donné. Enfin, ça peut être très bien parce que on en bénéficie de la littérature. C'est comme ça les livres. Mais finalement, j'aime pas tellement ça. Mon père était un libraire passionné bibliophile et j'aime pas quelque chose dans les livres. On encense les livres, mais moi j'aime bien l'autodafé. Il y en a trop. Et puis pourquoi tout d'un coup la pensée de quelqu'un va venir nous emmerder page après page parce qu'il aurait pondu ça, qu'il serait un éditeur, on s'en fout. Si vous voulez. Donc non. L'oralité, c'est quelque chose qui me plaît assez. Que je connais pas très bien, mais il y a quelque chose qui me plaît dans cette... Donc l'improvisation, ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà, on va essayer de ne pas fixer les choses, mais de puiser au minimum, si vraiment je ne trouve rien à faire, je viendrai avec les milliards de pages que j'ai pu imprimer de tout ce que j'ai pu écrire, et je plongerai dedans pour faire des trucs avec Christophe, mais on essaiera de trouver un peu de choses, et surtout de se laisser porter, parce que ça me plaît beaucoup. Moi, j'adore les murs du générateur, j'ai toujours aimé être là, dans cet endroit-là, depuis que je l'ai découvert, et donc je pense qu'on a dit qu'on mettra peut-être un rideau blanc sur le fond, parce qu'il y a des portes, alors on peut moins bien projeter, mais faire vraiment trois pans de projection un peu monumentale comme ça, avec boum 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 ces images qui passent, rien que de se baigner là-dedans, moi ça va me plaire, et puis voilà, c'est une espèce de diaporama en trois exemplaires, et puis là-dedans on fera quelque chose.
Alors,
on manifestera notre présence.
Je ne vais pas t'ennuyer avec te demander ce que tu vas faire, donc tu viens de nous expliquer. Mais il y a quand même l'idée d'une rétrospective, et tu as dit, j'ai bien noté que tu as dit à un moment avant que tu étais un peu dans le changement. Or, moi, quand j'invite des musiciens, des musiciennes, la plupart du temps ici, c'est un peu ce qu'ils me disent quand ils parlent de sortir un disque, notamment la musique improvisée. Mmh. Ils disent souvent, on sort un disque pour passer à autre chose, justement.
Oui.
Est-ce qu'il y a cette idée-là dans...
Oui, moi j'ai toujours ressenti, je sors pas de disque, pour moi, créer, ce qu'on appelle créer, enfin, si je veux, dans le sens tangible des choses, moi j'écris beaucoup. Mais j'écris malgré moi parce qu'on m'a fait écrire très petit, hein, c'est tout. C'est un mauvais réflexe. Donc, pour moi, c'est de la défécation, tout ça. J'ai pas de mépris pour la merde, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est des trucs qui doivent sortir, mais ça. Alors, c'est porteur de plein de choses pour moi, mais je ne peux pas dire que ça soit le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est certainement un espèce de vide qui reste, qui est une aspiration à quelque chose d'autre qui serait autour, que ça cerne peut-être, une espèce de trou au milieu. Et dans ce trou, qui est plutôt un miroir plus calme, plus posé, j'essaye de voir... moi, j'aime bien la métamorphose, c'est ce que je fais en cabaret, des prothèses, des machins, des trucs. Ça m'amuse de voir les visages que je peux avoir là-dedans. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi, dans le jeu, dans l'actorat, dans tout ça. C'est-à-dire que... là aussi, je dis pas ça par modestie mal placée ou quoi, mais... C'est mon ressenti, c'est-à-dire que je ne me sens pas comme ayant une personnalité, ou même de la personnalité. Donc j'ai besoin d'aller me coller un truc sur la tête, machin. Faut que ça m'amuse de jouer un petit peu à autre chose. Et après, faut que ça soit suffisamment intéressant pour que ça soit une blague, mais pas que ça. Et le fait est que là, par contre, j'ai un peu creusé suffisamment au cours du temps, des années. Et ce qui est merveilleux quand on se met dans un personnage, même qu'on n'a pas pré-pensé, c'est, j'allais m'excuser vis-à-vis de la bouteille d'eau, comme quoi, on prend un cerveau au nez. On prend le cerveau d'un personnage. Et ça se fait très naturellement. On se met à penser par la tête du vêtement qu'on a revêtu. Oui. Parce que le costume, c'est très important. La physionomie, c'est très important. Donc voilà, je me suis éloigné, pardon, de ta question. Mais pour dire, oui, c'est toujours derrière. Parce que devant, c'est quelle incarnation, dans quoi s'incarner pour ne pas se sentir comme une sorte de coquillage qui a en attendant d'en avoir une autre taillée sur mesure un peu plus grande, on est vulnérable. Donc dans cet entre-deux, il faut pas se blinder pour vite fait faire un truc qui ferait la blague parce que c'est pas intéressant, mais il faut bien se retrouver une maison autour de soi, et donc il y a toujours mais avant j'étais peut-être plus naïf ou plus conventionnel, ou je me connaissais moins dans mon travail, si on peut dire. Un peu prétentieux, ça, mais enfin bon. J'avais l'impression qu'il fallait, souvent on suit ce qu'on nous a dit, ça, qu'il fallait faire un projet.
Ouais.
parce que voilà, on est mis à nu, blablabla, on a laissé, bah, quel sera le prochain projet? Et je me suis aperçu que ça servait absolument à rien, à part faire vivre les gens qui ont des dossiers à lire, qu'on leur donne, enfin, on leur sert toujours à manger, quoi. Mm-hmm. Mais quand est-ce que ça nous sert à nous? Non, ça ne sert pas du tout, moi, de suivre ce protocole-là. Donc, non, et moi, il faut que ça diffuse, que je reste tout nu chez moi, tranquille. Et à un moment donné, je me dis, bon, il va falloir que je me mette quelque chose. Ça passe par où? Moi, je garde, je sais pas, c'est pas le syndrome de Diogène, mais je garde tous les autres, tout ce qui se colle, par exemple. J'aime bien les étiquettes. Oui. Je fais des collages, des machins, alors j'en ai plein mon... Et de temps en temps, je trouve ça incroyablement poétique, parce que je sais pas quoi, j'ai une promotion d'un prix Leclerc à côté d'un truc. Et ça, ça va m'aider. Ça va m'aider, parce que ça va me faire rêver à quelque chose, ou m'amuser, ou quoi. Mais voilà, maintenant, il est hors de question que je me dise, mon projet va être ceci.
Ah oui.
Voilà. Je sais pas si j'ai répondu un petit
bah,
peu.
Très bien. Bon, très bien. Mais je propose qu'on écoute To Die a Little More de Otoninski. Et puis on continuera à parler du festival Frasque. Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. On parle du festival Frasque aujourd'hui au générateur à Gentilly. On vient d'écouter Otoninski qui fera partie de la soirée Carte Blanche le 20 octobre à 20h. Il y aura deux autres propositions. Monster de Bigno Saoudi et Thomas Larope. Est-ce que tu peux nous en parler?
Pas plus que ce qui est écrit sur le programme, parce que moi j'ai pas vu cette proposition. D'ailleurs, c'est le cas de tout ce qui se passe dans Frasque, et puis c'est un petit peu le fil rouge de toute la programmation du générateur. L'idée, c'est que justement, c'est des invitations, des cartes blanches, et donc on découvre nous équipe et moi en particulier aussi tout ce qui va se passer. Après,
Thomas,
on connaît les artistes.
On sait que ils ont un rapport déjà entre eux, parce que ça s'appelle la première performance qu'ils font entre eux, ouais. Et puis un rapport au corps masculin, qui est tout à fait magnifique, et toujours, c'est jamais, c'est, ça peut être pas ce qu'ils voulaient, je sais pas quoi, mais c'est toujours captivant, il y a toujours quelque chose de captivant dans ce qu'ils font, par leur intégrité. Dans la façon d'être là, je trouve.
Oui, et puis parce que dans l'écriture de Bigno, dans ses duos, puisqu'il avait présenté Colo, qui était aussi une performance sur l'endurance, sur le poids, où ils se portent l'un l'autre, ça dure presque 45 minutes, et on voit au fur et à mesure l'effort colossal qu'il y a à avoir pour pas tomber sous le poids de l'autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que leur engagement physique, enfin, il y a une prise de risque toujours dans les formes qu'ils trouvent tous les deux, qui fait qu'on s'identifie aussi à la